Oui, je vais plutôt rester ici, parce que si je vais au pupitre, ça fait vieux sénateur d'hiver gauche de la Dordogne. Donc, je préfère rester ici. Oui, alors juste, c'est pas pour conclure spécialement, mais ça me faisait quand même écho, parce que c'est souvent un thème sur lequel on nous questionne le départ des jeunes de France. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est plus important qu'il y a 10 ans, etc. Le fait est qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, mais moi, ça me fait toujours bizarre d'entendre ça, parce qu'il se trouve que je suis enseignant à Paris 8, Université de Saint-Denis, où en licence de sociologie, l'essentiel de notre public, en fait, maintenant, c'est des étudiants qui, en fait, ont un bac à l'étranger et sont des étudiants africains qui viennent chez nous faire leurs études. Donc, en fait, la France, elle demeure aussi complètement attractive et une terre de rêve pour ces jeunes qui sont dans nos amphis. Donc, moi, ça me fait toujours bizarre, en fait, d'entendre un discours un petit peu défaitiste comme étant la France étant la pire lie du monde pour vivre quand on est jeune ou quand on a été jeune, et que voilà, il y a toujours un hiatus avec ce qu'on voit avec les collègues dans nos amphis. Mais bref, ça c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit. Il me semble que aujourd'hui, on a bien montré que penser la jeunesse, en fait, quelque part, c'était penser la société. Parce qu'on a parlé des jeunes au départ, mais en fait, ensuite, on a parlé d'inégalité sociale, on a parlé, je dis vraiment les choses dans le désordre, mais on a parlé du Front National, on a parlé d'aspiration, on a parlé de rêve, on a parlé de plein de choses, en fait, qui concernent l'ensemble de la société. Et c'est pas juste une coquetterie de l'esprit de dire ça, parce que ça rejoint, en fait, quelque chose qui est une vraie difficulté, qui est de... Je crois que c'est Olivier qui disait ça. En fait, une politique jeunesse, moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Parce que les jeunes qui sont en France, 25% à ne pas trouver de travail quand ils en cherchent, est-ce qu'ils sont au chômage pour des raisons différentes que le salarié de Moulinex qui s'est fait virer à 52 ans ? Est-ce que les dynamiques du marché du travail, elles sont différentes pour un jeune de 21 ans que pour un salarié senior dans mon Pas-de-Calais natal? J'en suis pas certain. Et ça veut dire que les politiques derrière, les solutions derrière, je suis pas certain que ce soit en ciblant des choses sur les jeunes en particulier. Et c'est pour ça que pour plein de choses, notamment la protection sociale, je pense vraiment que rentrer les jeunes, au contraire, dans des dispositifs universels qui s'appliquent à l'ensemble de la population, c'est évidemment l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, il est vrai que toutes ces difficultés, le marché du travail, la précarisation croissante, tout ce qui se passe actuellement contre le projet El Khomri, etc., ça touche particulièrement les jeunes, parce que les jeunes sont un âge fragile de la vie, et donc les difficultés qui se passent dans le champ économique sont démultipliées. Il y a un journaliste qui me demandait hier, mais enfin je ne comprends pas pourquoi les jeunes manifestent contre le projet de loi El Khomri, ça ne les concerne pas spécifiquement. Mais si, ça les concerne spécifiquement, parce qu'eux vont devoir faire toute leur carrière dans ce marché du travail moins protégé. Quelqu'un qui a 50 ans, il a commencé une carrière, il a eu le temps de commencer quelque chose dans un état du monde un petit peu différent. Donc si, évidemment, ça concerne en particulier les jeunes. Une autre façon de réagir aussi, c'est de dire que finalement, les jeunes sont aussi à l'image de la société, toujours dans mon idée de dire qu'en fait, on a parlé de la société. Par exemple, quand on regarde, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais on a l'image de la jeunesse. Quand on dit la jeunesse qui est visible dans les médias, en tout cas, c'est soit la jeunesse des cités, des quartiers, etc., donc potentiellement délinquantes, immigrées, tout ce qu'on veut, et... Par ailleurs, la jeunesse étudiante. Or, la jeunesse étudiante, elle est elle-même extrêmement diverse, déjà. C'est pas tout à fait la même chose de faire une licence de sociologie à Paris 8 que de faire Sciences Po, etc. Et par ailleurs, c'est qu'une fraction de la jeunesse. J'ai plus les chiffres en tête pour la dernière année spécifiquement, mais la dernière fois que j'avais regardé, ça devait être en 2013 ou 2014. Si on prend les 18-25 ans en France, il y en a à peu près 45% qui sont encore en études, donc soit lycéens, puisqu'elle est 18 ans, soit dans l'enseignement supérieur, mais il y en a quasiment autant, 40%, qui sont déjà sur le marché du travail, qui sont déjà en activité. Et cette jeunesse-là, on la voit jamais. Et puis même politiquement, du coup, je disais, la jeunesse étudiante n'est qu'une partie de la jeunesse. La jeunesse étudiante, tolérante, qui voyage, qui bénéficie des dispositifs, etc., etc., Erasmus et compagnie, c'est une fraction de la jeunesse. Mais il y a aussi une fraction de la jeunesse qui est sur des positions crispées, autoritaires, xénophobes, racistes. Il faut le dire, voilà, ça existe. Moi, ça me désole, mais ça existe. Tout à l'heure, on posait la question du Front National. Je partage tout à fait votre point de vue, le premier parti chez les jeunes, mais dans une partie de la population d'ailleurs, c'est l'abstention. Mais le fait est que quand on interroge dans des enquêtes plutôt sérieuses les jeunes, on s'aperçoit qu'il y en a toujours 25 à 30% qui sont sur des positions autoritaires, crispées, fermées. Il faut rétablir la peine de mort, il y a trop d'immigrés, il faudrait réserver les emplois aux Français, etc. etc. Donc c'est désolant, mais ça existe. Et je pense que si on ne prend pas ça en compte, que ce sont des convictions, et on peut avoir des convictions sincères, en étant au Front National. Dans un des documentaires réalisés par Laetitia Moreau, dont elle vous parlera tout à l'heure, on suit une jeune femme qui commence à faire carrière, ou en tout cas qui se présente pour le Front National. A priori, il n'y a pas de raison de penser que ses convictions sont moins sincères que le jeune qui va, par exemple, adhérer au Front de Gauche ou à NPA. Donc moi, ça fait saigner mon cœur de citoyen, mais je pense qu'on ne peut pas combattre le Front National si on ne prend pas en compte le fait que, comme pour le reste de la société, les idées du Front National, elles ont aussi essaimé quelque part parmi les jeunes. Alors elles ont d'autant plus essaimé que les partis politiques ont assez largement servi les plats au Front National. Là, je partage tout à fait ce qui a été dit. Terminer aussi en disant que tout cela a montré les débats notamment de la première table ronde, mais aussi plus largement que la deuxième table ronde, c'est qu'il faut nécessairement aujourd'hui une véritable révolution des politiques publiques à destination de la jeunesse aujourd'hui. Je donnerai juste un exemple, c'est que, en gros, aujourd'hui, quand on a des difficultés, être jeune, on survit si la famille peut aider. En gros, c'est ça, notre dispositif. Or, ça a été possible un temps. Ça a été possible un temps parce que, précisément, les parents des jeunes de 20 ans, c'était les baby-boomers, qui, eux, ont pu passer un peu à travers les gouttes, accumuler un patrimoine, etc., qu'ont dépensé les enfants pour survivre, si je caricature grossièrement parce qu'il est tard. Mais aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, leurs parents ont 50 ans. Leurs parents ont 50 ans, ce n'est plus la génération du baby-boom. C'est déjà une génération qui a été fragilisée dans le milieu de ses parcours. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus le patrimoine à dépenser. Et donc, cette familialisation, l'État qui a pu se défausser sur les familles, en disant « voilà, on pose un mouchoir là-dessus », à mon sens, ça ne va plus être possible longtemps. Ou en tout cas, ça va être possible, mais il y a vraiment des plaies entières de la société française qui vont apparaître, pour dire les choses de manière un peu abrupte. J'ai l'impression quand même que voilà, les ressources, le patrimoine accumulé par les baby-boomers, il a été dépensé par la génération de leurs enfants, ou en tout cas, il va leur permettre de vivre, et se pose la question de comment on met en place des politiques publiques qui permettent de prendre le relais. Et je termine tout à fait par un motif d'espoir. C'est que malgré tout, même s'il y a les jeunes qui sont sans diplôme, même s'il y a les NIT, même s'il y a ceux qui ont décroché précocement, etc., même s'il y a y aurait beaucoup de choses à dire sur l'éducation et les beaux esprits qui nous disent on donne le bac à tout le monde, en tout cas pas à tous les enfants d'ouvriers, parce que par exemple le bac général pour les enfants d'ouvriers c'est 20%, nous l'oublions pas, voilà. Donc ça veut dire que si vous interrogez 100 enfants d'ouvriers qui ont 18 ans, il n'y en aura que 50 qui auront le bac à la fin de l'année. Donc ils ne l'ont pas tous, et si on prend que le bac général, qui dans notre système élitiste demeure quand même le Graal et si possible le bac scientifique, on est en dessous de 20%. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai quand même que le niveau d'éducation de la jeunesse augmente au fil des générations, et l'éducation, c'est pas juste l'éducation scolaire, c'est pas juste fréquenter l'école, c'est l'éducation sur les réseaux sociaux, c'est tout ce que permet pour le coup un bon côté de la mondialisation quand même, c'est l'accès à des savoirs qui dépassent les frontières, etc., etc. Et bien tout ça fait que les jeunes se satisfont de moins en moins de leur sort. Et je trouve que ça, moi je partage tout à fait ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, on nous demande toujours, nous sociologues, de faire de la météorologie sociale, et quand on prend le risque, on se plante tout le temps, donc je dis pas que demain il va y avoir Podemos en France, ou les indignés Place de la République ce soir comme hier soir, etc. Mais je pense quand même qu'il y a aujourd'hui quelque chose qu'il y avait moins il y a 5 ans, c'est-à-dire le sentiment vraiment qu'il y a une indistinction de l'offre politique aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si vous le ressentez, mais même moi, des fois, je le ressens. Je me dis, a priori, j'ai tout pour être intégré et donc pour m'engager. Je me dis, voilà, j'ai un travail, un CDI, une famille, etc. Mais je me dis, où m'engager en politique ? Où m'engager ? Si vraiment je voulais m'engager, où est-ce que je pourrais m'engager ? J'ai eu des engagements qui ont été déçus, etc. Et je pense que beaucoup de gens sont dans la même situation. Il y a une insatisfaction de l'offre politique qui est vraiment importante. Avec Cécile Vandevelde, dont on a parlé tout à l'heure, on faisait des entretiens en 2010-2011 au moment des indignés en Espagne. Et on nous disait, mais pourquoi il n'y a pas les indignés en France ? Et il nous semblait qu'une des explications, peut-être elle n'était pas bonne, mais c'était qu'en France, il y avait les élections présidentielles de 2012 qui arrivaient. Et il y avait une figure tellement haïe, tellement honnie, dont on voulait tellement se débarrasser, qui était Sarkozy, qu'il y avait une sorte de moment qui allait arriver où on allait pouvoir se défouler. On s'est défoulé. Et puis on a vu. Et puis aujourd'hui, dans les entretiens qu'on fait, aller expliquer à un jeune qu'en 2017, il pourra peut-être voter pour Manuel Valls plutôt que pour Alain Juppé, en termes de débouchés de colère, je ne suis pas certain que ce soit très important. Et je pense qu'un des grands bénéfices du quinquennat de François Hollande, ce sera d'avoir accéléré la décomposition politique en cours. Et je pense qu'une jeunesse de plus en plus insatisfaite, ayant quand même de plus en plus les armes pour déchiffrer et pour se faire entendre, je serais moins pessimiste qu'il y a quelques années, même si, encore une fois, à chaque fois qu'on prédit le grand soir, si tant est qu'il soit souhaitable, eh bien, il n'arrive jamais. Mais je pense vraiment que voilà, la jeunesse est de plus en plus critique, de plus en plus consciente, et je pense que ça, c'est quand même un motif d'espoir. Voilà. C'est bien de terminer par un motif d'espoir, non ?
Merci. Bravo. Il y a encore une présentation, non, c'est ça ? Rapidement ?
Il y a une présentation très brève du film de Laetitia Moreau, qui est là. Et je voulais vous remercier pour cette... merci Camille, et merci beaucoup pour la table ronde. Et... Donc, merci beaucoup pour ce débat très, très intéressant. Et je vais laisser la parole à Laetitia.
Merci Isabelle. Merci aux intervenants, c'était très intéressant. Merci à Camille. Donc Camille, on se connaît parce qu'on a travaillé pendant 2 ans à une série documentaire pour France 2 intitulée « Génération quoi ?». Et donc sur la proposition de Camille, donc ce soir sera projeté le premier volet de la série qui s'intitule « Bac ou crève ». Et voilà, je vous encourage évidemment à rester pour voir ce film, qui était un film à la fois où j'ai donc travaillé avec Camille, mais aussi Cécile Vandevelde. Et c'était très intéressant parce que c'était vraiment un retour entre le terrain, ma pratique documentaire et leurs travaux de sociologue. Donc il y a eu un vrai travail en commun, je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'était très, très enrichissant. Et les films s'inscrivent pour le coup dans une réalité sociologique, j'ai envie de dire. Enfin voilà, je n'ai pas fonctionné comme j'aurais fonctionné avec d'autres films où j'aurais choisi par affinité ou feeling un peu comme ça des jeunes. Non, ça cadrait aussi avec des problématiques qu'on avait envie de soulever. Et la problématique de ce film rejoint un des thèmes que Camille a évoqué, à savoir ces 40% dont on ne parle jamais, qui n'atteignent pas le niveau du bac. Et qui, eux aussi, aspirent à avoir une vie remplie, heureuse, évidemment. Quand on a 18 ans, on aspire à ça. Et donc, c'est le portrait de ces jeunes-là, sachant que je suis restée un an à Cergy-Pontoise et que j'ai filmé des jeunes un peu de tous horizons. Et ce volet leur est consacré. Et c'est un volet dont je suis très fière. Et je crois que Camille aussi, parce que quand on parlait des médias tout à l'heure, ce sont particulièrement des jeunes que France 2 n'avait pas envie de voir. Donc, que le film existe, c'est très bien. Voilà. Et j'espère à tout à l'heure.
Tout à l'heure, c'est dans un quart d'heure. Hein. Et le film dure une heure. Donc, j'espère que vous aurez la patience de rester encore un petit peu. Merci. Donc, dans un quart d'heure, la projection commence à 20h15.